Bonjour, Madhaba, Buenos Dias, vous êtes bien à l'écoute du magazine interméditerranéen Cantara, le 27e de la saison 2018-2019.
Cantara est le fruit d'une coopération interméditerranéenne qui englobe Radio Bleu RCFM, Radio Le Caire, SNRT Radio Rabat, Radio Liban, RTCI Tunis et Radio Extérieur d'Espagne.
Cantara est, nous ne le disons jamais assez, le fruit d'un réseau de complicité. Complicité de radios publiques méditerranéennes et également complicité de professionnels de ces radios. Du 4 au 6 avril, ces radios et bien d'autres se sont retrouvés pour la 26e réunion annuelle de la conférence permanente de l'audiovisuel méditerranéen à Split, en Croatie. Nous consacrons ce Cantara en grande partie à cet événement, mais cela ne nous empêche pas, bien sûr, d'accorder une place à l'actualité de nos sociétés et pays respectifs. Pour ce faire, voici la revue de presse élaborée comme toutes les semaines par Pierre-Louis Alessandri depuis Bastia.
Regard sur la presse méditerranéenne. La revue de presse.
Le sport et la culture sont peut-être les meilleurs moyens pour la collaboration entre les pays. C'est ainsi que pour la 3e édition du Festival du film documentaire d'Agadir, une association est née avec la ville française de Nantes et son festival des trois continents pour organiser un atelier commun sur un thème « Produire au Sud ». Pour sa 3e édition « Produire au Sud », Agadir affirme son identité multiple, africaine, arabe et méditerranéenne, un festival qui réunit 7 pays, Maroc, Algérie, Tunisie, Liban, Palestine, Égypte et Jordanie, souligne le journal Aujourd'hui le Maroc. Autre collaboration inter-pays, celle de l'Institut du monde arabe de Paris, qui a choisi de rendre hommage à Larbi Ben Barek, figure emblématique du football marocain, aujourd'hui disparu, à l'occasion de son exposition événement Foot et Monde Arabe, l'Institut parisien consacre l'affiche de l'exposition à cette icône marocaine. En consacrant l'affiche de son exposition à Larbi Ben Barek, l'IMA entend rendre un hommage appuyé à une légende du foot marocain qui a marqué en lettres d'or l'histoire du foot de son pays et l'histoire du foot français, écrit aujourd'hui le Maroc. Le président de l'Institut du monde arabe, Jacques Lang, déclare « J'ai moi-même décidé de retenir l'image de cette icône du foot arabe spécialement marocain pour notre affiche, mais aussi pour tous les documents, le programme et le catalogue de l'exposition. Cette affiche est placardée partout à Paris et diffusée sur les réseaux sociaux », a souligné Jacques Lang. Il ne fait pas bon critiquer le président égyptien. Plusieurs artistes en font les frais et des écrivains aussi. L'Orient Le Jour, le journal libanais, rend compte des accusations portées contre une grande vedette de la pop-musique, Shirin Abdelwahab, qui a été interdite temporairement d'exercer après avoir ironisé sur le manque de liberté d'expression dans son pays. Deux célèbres acteurs égyptiens qui vivent hors du pays sont aussi interdits d'exercer leur art en Égypte et accusés de haute trahison après avoir publiquement critiqué le régime du président Sisi. Enfin, l'écrivain égyptien Alaa El Hazwani est poursuivi pour insulte envers le président. Il est interdit de publication. El Hazwani est l'un des écrivains les plus célèbres du monde arabe. Il a saisi, lui, les Nations Unies et le rapporteur spécial pour la promotion et la protection de la liberté d'expression. L'écrivain vit aux États-Unis, il est considéré Comme un ardent défenseur de la démocratie, il est un des membres fondateurs du parti d'opposition égyptien Kifaya. En 2011, il a pris part au printemps arabe et au mouvement de la place Tahrir en Égypte. Les œuvres de Alaa El Aswani sont interdites dans de nombreux pays arabes, sauf en Tunisie, au Maroc et au Liban, souligne L'Orient le Jour. En France aussi, écrire certaines vérités peut comporter des risques. C'est ainsi qu'un journaliste de la Marseillaise, auteur de deux enquêtes concernant la commune d'Allo, ville proche de Marseille, il a été l'objet d'insultes et de menaces de mort de la part du maire de cette commune. La Marseillaise rapporte les faits. Selon le journaliste, le maire l'a insulté au téléphone et menacé. Et il cite les propos de l'élu « Je vais te crever, attention de ne pas m'emmerder, moi je ne suis pas n'importe qui » et d'autres joyeusetés. Le journaliste a bien sûr porté plainte et le Syndicat national des journalistes français lui a apporté son soutien.
Merci Pierre-Louis. Nous avons aussi vécu un grand événement ces derniers jours, la commémoration du 25e anniversaire des grands massacres interethniques du Rwanda. Une commémoration où a été revendiqué le devoir de mémoire et le devoir de vérité. Le Rwanda n'est certes pas la Méditerranée, mais la douleur, le déchirement, la sans-raison nous touchent. Également, notre hommage symbolique, petit pays de l'écrivain, chanteur, poète franco-rwandais Gaël Faye.
Gaugu gatoyi Gaugu kaniniya Warapunwe ni wapuye Waragowe ni wagoka Gaugu gatoyi Gaugu kaniniya.
Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque. Loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs, remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez, mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guisséni. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya. Warapunwe ni wapuye, waragowe ni wagoka. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya.
Petit bout d'Afrique, perché en altitude. Je doute de mes amours, tu resteras ma certitude. Réputation recouverte d'un linceul. Petit pays, pendant 3 mois, tout le monde t'a laissé seul. J'avoue, j'ai plaidé coupable de voyir quand tous les projecteurs étaient tournés vers le Zaïre. Il fallait reconstruire mon petit pays sur des ossements, des fosses communes et puis nos cauchemars incessants. Petit pays, te faire sourire sera ma rédemption. Je t'offrirai ma vie, à commencer par cette chanson. L'écriture m'a soigné quand je partais en vrille. Seulement laisse-moi pleurer quand arrivera ce maudit mois d'avril. Tu m'as appris le pardon pour que je fasse peau neuve, petit pays. Dans l'ombre, le diable continue ses manœuvres. Tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent. Je suis semence d'exil, d'un résidu d'étoiles filantes.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya. Warapunwe ni wapuye, waragowe ni wagoka. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya.
Un soir d'amertume, entre le suicide et le meurtre, j'ai gribouillé ces quelques phrases de la pointe neutre de mon feutre. J'ai passé l'âge des pamphlets quand on s'encanaille. Je connais que l'amour et la crainte que celui-ci s'en aille. J'ai rêvé trop longtemps de silence et d'aurore boréale. À force d'être trop sage, je me suis pendu avec mon auréole. J'ai gribouillé des textes pour m'expliquer mes peines, Bujumbura et ma luciole dans mon errance européenne. Je suis né il y a longtemps, un mois d'août, et depuis, dans ma tête, c'est tous les jours la saison des doutes. Je me navre et je cherche un havre de paix. Quand l'Afrique se transforme en cadavre, les époques, ça meurt comme les amours, man. J'ai plus de sommeil et je veille comme un zamou. Laissez-moi vivre, parole de misanthrope. Citez-moi un seul de rêve qui soit allé jusqu'au bout du sien propre.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya. Warapunwe ni wapuye, warago.
Petit pays, quand tu pleures, je pleure. Quand tu ris, je ris. Quand tu meurs, je meurs. Quand tu vis, je vis. Petit pays, je saigne de tes blessures. Petit pays, je t'aime. Moi j'en suis sûr.
Comme je vous l'annonçais, Split, ville balnéaire de Croatie, a accueilli les travaux de cette réunion essentielle pour la vie interne de la COPEAM, puisqu'elle permet l'émulation et également la planification future. Cette année, le thème central des séances plénières aura été « Société en changement ». Communiquer les diversités, un véritable pari sur l'avenir en termes de respect de la déontologie, de respect de la vérité, de proximité avec l'autre. Comment parler de la diversité? Eh bien, sans poncif et sans provocation.
اكتشاف موسيقي
عياثغو موسيقال
عياثغو موسيقال اوكي A musical discovery
La jeune Rosalia est en train de casser bien des barrières. D'abord en triomphant au Grammy Latinos avec Malamente, ensuite en devenant un véritable phénomène sur la toile et les réseaux sociaux, et ensuite encore, et c'est peut-être là le plus difficile, oser franchir le pas et se lancer dans le flamenco sans aucun lien avec les traditionnelles familles gardiennes sacrées de ce genre musical. Rosalia, pour tout dire, n'est pas andalouse. Elle est catalane. Nous vous invitons à écouter ici son thème « Di mi nombre ».
Sí.
Cántara, nuestro programa intermediterráneo.
Pour parvenir à informer correctement de cette diversité chaque fois plus prononcée de nos sociétés et pour nous donner un code et des pratiques communes tout en gardant nos spécificités, nous ne pouvons pas faire l'économie de la formation. Et dans la commission radio, la formation a été conjuguée à tous les temps et à tous les modes, dans les autres commissions aussi, comme celle de la télévision, des archives ou encore de l'égalité. Cantara a invité quelques intervenants, dont le président sortant de la commission radio, Hervé Desharo, pour en parler autour d'une table. Une table ronde, bien sûr. Split Hotel Park, 5 avril 2019. Nous nous retrouvons une fois de plus à la fin d'une rencontre importante. Les réunions annuelles de la COPEAM sont toujours des réunions extrêmement importantes où il se passe toujours des choses imprévues et où on apprend beaucoup. Alors aujourd'hui, nous allons vous proposer de découvrir deux projets de la COPEAM, deux projets qui fonctionnent, on le voit. Et pour cela, nous avons Guillaume Ortiou, que vous connaissez fort bien, et nous avons Serena
Larufa.
Larufa, qui est aussi du staff de la COPEAM. Mais nous avons aussi un invité extrêmement important pour nous tous qui travaillons dans le secteur de l'audiovisuel, un représentant de l'INA.
Oui, bonjour Olivier Porchereau, donc je suis ravi d'être de retour. C'est important pour l'INA d'être de retour, au moins en tant qu'observateur dans un premier temps, des travaux de la COPEAM. Et je dois dire que ce que j'observais au cours de ces premières réunions est vraiment toujours aussi intéressant que ce que nous avons connu auparavant, c'est-à-dire des échanges qui sont riches, des partenaires qui sont investis, qui sont pertinents. Et c'est vrai que l'INA a toute sa raison d'être présente au sein de la COPEAM également.
Et notre invité surprise, vous ne me croirez jamais, c'est Monsieur Hervé Desharo.
Bonjour Eman.
Bonjour Hervé. Alors comme ça, hier, il nous a annoncé qu'il renonçait à continuer à être le chef.
Oui, alors on va parler clairement, j'ai démissionné, voilà.
Oui, voilà. Non, mais je cherchais un euphémisme parce que c'est faux. Donc, ce que je voudrais savoir, c'est comment lui évalue cette réunion qui n'est pas encore terminée, mais on sent déjà des tendances et.
Alors moi, je vais parler que de la commission radio, voilà. Oui. Parce qu'après, d'abord, j'étais pas dans les autres commissions, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est le constat qu'on faisait avec Guillaume après la réunion. Ça a été l'une des plus riches et des plus courtes. Donc, comme quoi, on peut faire court et être très riche. De la commission radio, il y a eu beaucoup de propositions, beaucoup de monde autour de la table. Je crois qu'aussi ce qui est un fait marquant de ces dernières années, c'est un rééquilibrage en Méditerranée, notamment avec les pays, je dirais, nord mais non traditionnels de la Méditerranée, à savoir la Croatie, à savoir la Grèce, voilà, des pays qui s'investissent aujourd'hui, que nous n'avions pas l'habitude d'avoir à nos côtés avant. Et donc, ça ouvre de belles perspectives. Voilà. Donc, maintenant aussi, on le sait, le Sud est encore déstabilisé. Et donc, il va falloir un peu de temps pour organiser tout ce monde médiatique.
Oui, alors vous avez suivi pendant plusieurs années Cantara, les péripéties, les développements. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire maintenant? Rassurez-nous ou non, dites-nous la vérité.
Non, moi j'ai toujours dit la vérité, c'est pas aujourd'hui que je vais commencer à dire autre chose. Non, je crois qu'on est à un tournant pourquoi? Alors, il vient pas tellement de nous, il vient de deux choses. D'abord d'une situation, comme je le disais à l'instant, en Méditerranée, qui reste très tendue et très fragile politiquement. On le voit, ces dernières heures, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Donc, ça veut dire que tout n'est pas encore stabilisé. Et donc, la participation des médias est souvent aléatoire. Et donc, ça, c'est compliqué pour construire de la coopération sur le long terme. Ça, c'est un point difficile. Et puis, le deuxième point, ce sont l'évolution des consommations. Alors, la radio en Méditerranée, heureusement, reste encore un média très puissant. Mais quand même, inéluctablement, comme dans tous les autres pays, la consommation du média radio va changer. Il va falloir s'adapter, il va falloir trouver des produits nouveaux, innovants, différents, il va falloir être plus numérique qu'avant, et donc il va falloir former tout le monde, ça fera partie, je crois, des enjeux de demain, parce que sans formation, on n'y arrivera pas. Donc il y a de vrais enjeux, et là, si les radios partenaires ne comprennent pas qu'il va falloir faire un investissement nécessaire, alors la coopération pourra en souffrir.
Eh bien, monsieur De Haro, je le prononce à l'espagnol, là.
Voilà.
Et bonne chance. Donc,
merci, bonne chance à vous tous.
Occupation et on se reverra certaines.
Absolument.
Bien, nous allons maintenant parler donc des projets qui sont plus que des projets parce qu'ils sont en train d'être mis en marche. D'abord, un projet de rédaction transnationale. Quand on sait le problème maintenant de faire travailler des journalistes en rédaction. Et je me rends compte que justement faire travailler des journalistes même en binôme, des fois c'est compliqué parce que j'ai oublié, oui, amis auditeurs, j'ai oublié totalement de vous présenter notre collègue Jérôme Susini de RCFM, de la Corse donc, et qui est là, qui attend sans protester son tour.
Mais c'est le principe de la radio, d'attendre son tour. On va prendre le temps de dire bonjour à tous nos auditeurs tout d'abord, et puis de remercier tous nos amis qui sont ici autour de la table, et de te remercier toi également, Imane, de faire toujours ce travail avec passion et avec ferveur. Et c'est important. Juste deux petits mots, Hervé De Haro, et puis nos invités ici, notre ami de Lina, et puis Serena, dont j'ai oublié, pardon, vous m'excuserez le nom de famille, bien mais sûr. C'est la radio, c'est ça rentre, ça sort, c'est un grand théâtre la radio, voilà, c'est ça, c'est la chose que l'on retient, mais c'est pas une grande comédie par contre, c'est une belle histoire. Et donc ce que je retiendrai de tout, si vous permettez, Imane, que je donne mon sentiment sur cette copéam, ce que je retiendrai de tout, c'est qu'il y a effectivement, comme l'a dit Hervé De Haro, une exigence d'aller de l'avant dans la maîtrise des technologies, des nouveaux médias, et puis surtout de la formation. Et c'est très important parce que nous, on est là pour transmettre les choses auprès des jeunes. Lina fait de la formation, Radio France fait de la formation, la COPEAM fait de la formation. C'est extrêmement important. Il faut à tout prix que notre jeunesse maîtrise les outils pour que ces outils deviennent des véritables bras vers une plus grande communication. C'est tout à fait nécessaire, mais leur donner ces outils-là vraiment de la façon la plus simple possible. Et peut-être qu'avec notre ami de Lina, Olivier Perchereau, vous pouvez nous en dire un tout petit mot peut-être sur cette intervention de Lina, parce que on sait que vous avez quelques centaines de jeunes en formation.
Oui, absolument, c'est vrai que Lina est...
Parce qu'on connaît Lina, cette banque d'images et de sons, mais c'est pas que ça.
C'est vrai que la plupart du temps, quand on parle de Lina, le grand public se pense à la au petit carré qui est sur l'écran de télévision, mais en réalité, il y a aussi tout l'aspect de formation qui existe depuis la création de Lina en 1974, et l'aspect de formation aujourd'hui se concrétise par des actions de formation initiales, donc pour les jeunes qui sortent du système scolaire et qui, en fait, vont suivre des enseignements d'un niveau Bac plus 2 jusqu'à grade master, mais également aussi la formation professionnelle avec 3500 professionnels qui sont formés chaque année.
Voilà, et bien nous reviendrons à cette
formation. Et Selena, vous, vous nous avez présenté quelque chose aussi de passionnant, parce que le débat, pour le moins, en Espagne, à l'heure actuelle, c'est est-ce que réellement on travaille en rédaction ? Est-ce que la rédaction telle qu'elle existait avant, où les gens se réunissaient, buvaient vin, café à la journée, fumaient 2 paquets de cigarettes, mais cela leur permettait d'être ensemble, d'échanger, est en train de disparaître. Or, vous, votre projet, c'est justement faire travailler 2 jeunes journalistes en coordination, en rédaction, avec l'esprit rédaction.
Tout à fait, tout à fait. C'est l'une des initiatives de la COPEAM. Ça a été développé avec la Banque européenne d'investissement sur un thème spécifique qui est le changement climatique, qui est un thème qui est très actuel et qui touche tous les pays au niveau international, mais spécialement dans la région méditerranéenne qui a ses fragilités au niveau environnemental. Donc c'était une expérience, je dois dire, à succès. On a eu 7 journalistes en provenance d'Égypte, Maroc, Jordanie, Palestine et Tunisie. Donc c'était une grande équipe et ces journalistes étaient assistés par un expert environnemental arabophone, donc qui leur a fait des briefings sur la COP, sur la conférence des Nations Unies sur le climat, qui a bien sûr c'est des thèmes qui peuvent devenir très techniques. Donc cette figure était très importante pour la compréhension de certains aspects. Et on avait aussi un editor-in-chief qui était en charge, bien sûr, de la gestion du temps. C'est ça, en fait, un des défis les plus importants quand on a un groupe de personnes large. Et on avait, en fait, une équipe technique de 2 personnes seulement, de 2 caméramans qui suivaient les journalistes. Donc, il était très important de planifier à l'avance les interviews, les reportages, tout ce qui. Parce que chacun d'eux avait ses priorités, en fait, non? Donc, ils ont, par exemple, voulu interviewer leurs délégués nationaux ou se concentrer sur certains aspects des questions relatives au climat. Donc, c'était ça, en fait, un grand défi au niveau vraiment de coordination et d'organisation. Au niveau d'échange, c'était aussi intéressant. En fait, les journalistes, bien sûr, ils étaient indépendants au niveau des contenus, mais c'était intéressant de voir comment les échanges entre eux ont amélioré aussi leur perception des questions et les résultats finaux. Soit avec les experts qu'avec les autres collègues, disons, des autres pays de la Méditerranée.
Et le prochain défi ?
Le prochain défi, ça va être organiser quelque chose d'intéressant pour la prochaine COP, la COP 25, qui va se dérouler au Chili, donc bien au-delà des frontières méditerranéennes. Mais nous sommes en train de dialoguer avec la Banque européenne d'investissement pour mettre en place peut-être une formule différente, mais qui donnera bien sûr espace aussi aux journalistes de la Méditerranée et de la rive sud en particulier sur la COP 25 aussi.
Et nous avons assisté, Jérôme, à la présentation aussi d'un autre projet qui est très avancé à l'heure actuelle. Moi, je ne l'appellerai même plus projet parce qu'il est en fonctionnement. C'est FIEST. Et nous avons ici Guillaume Ortiau-Campion qui va nous en parler. Donc, il a toute liberté pour choisir comment nous introduire à ce monde fascinant de FIEST.
Expliquer ce que signifie FIEST. FIEST, ça veut dire Formation Internationale à l'écriture de séries télé. C'est un projet qui a été lancé à la fin de l'année 2017, début 2018, et qui a pour but, en fait, l'implémentation d'une formation à l'écriture de séries télé dans les écoles de cinéma et de audiovisuel partenaires de la COPEAM. Pour ce faire, on a monté un consortium qui est basé autour de la COPEAM avec l'ESAV Marrakech, l'ESAC à Tunis, l'ALBA à Beyrouth, et on a aussi élargi à des partenaires du nord de la Méditerranée avec l'INSAS à Bruxelles et l'ENSAV Toulouse. Et à travers cette volonté de travailler ensemble, on avait été arrivé au constat en fait que le secteur des séries était un domaine en évolution, comme tout le monde peut le constater dans la pratique même de regarder les séries aujourd'hui, qui est répandu. Et donc il y avait vraiment un besoin de soutenir en fait la mise en place de ces formations, à la fois pour les établissements qui avaient des parcours en cinéma documentaire, en cinéma fiction, en télé, et qui n'avaient pas des parcours de formation spécifiques à la spécialité de l'écriture de scénarios de séries.
Pourquoi faut-il, Guillaume, assister, accompagner, on le comprend, mais vous allez nous le préciser, accompagner finalement dans l'écriture de séries TV, peut-être pour sortir d'une certaine production qui inonde les pensées finalement.
Oui, parce que je pense que c'est un enjeu aussi stratégique. On voit aujourd'hui que les séries proviennent des quatre coins du monde, et qu'il y avait une volonté aussi que la Méditerranée soit représentée dans cet univers-là, et qu'il y avait des histoires à raconter qui soient en plus avec cette dimension transnationale, avec le lien fort qui unit à la fois la rive nord, la rive sud et les quatre coins du bassin méditerranéen. Et qu'en plus, il y a une spécificité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va former à écrire des films, c'est pas la même chose. Donc il y a une vraie demande, il y a aussi un marché, il y a aussi des besoins d'avoir ces jeunes gens qui sont formés à ça, parce que c'est un secteur qui emploie beaucoup, où en fait les équipes sont très importantes. Autour des showrunners, il y a vraiment des équipes de scénaristes on est sur des dizaines d'équipes qui doivent tout au long de l'année mettre en place les séries et les épisodes qui évoluent dans le temps. Donc il y a un besoin à la fois pour le secteur du travail, aussi pour le secteur de la production et de la diffusion, et de créer un univers autour de la série méditerranéenne.
En quelle langue se fait la formation en général ?
La formation est en français.
En français ?
Est en français, oui. Et en fait, il y a un volet qui est très important dans cette formation qui est mis en place grâce à notre partenaire Uninetuno, c'est le volet e-learning. Ça veut dire que dans chaque établissement, il va y avoir des cours sur place, et au milieu de ça, on va utiliser cette plateforme qui permet d'avoir des enseignements en ligne, des cas pratiques avec des experts qui viennent vraiment du secteur international des séries télé, qui viennent parler de leur savoir-faire, de leurs bonnes pratiques et de leur expérience. Donc il y a vraiment cette double dimension locale et internationale.
Et les stagiaires ou apprenants, je ne sais pas comment vous les appelez, étudiants, sont recrutés comment ?
Il y a eu, chaque établissement a lancé un appel à participation en fin d'année dernière, avant l'été 2018. Et on a eu des très bons résultats, puisque dans chaque école, il y a 6 étudiants. On a sélectionné 6 étudiants et on a en moyenne reçu une quarantaine de candidatures par établissement. On avait, lors des réunions du comité pédagogique préalable, quand on a eu une phase de 1 an de préparation de cette formation, établi des critères communs de sélection qui s'adaptaient aussi à la réalité de chaque école, puisqu'on a des établissements qui sont à la fois privés, à la fois publics, et avec des secteurs éducatifs avec des régulations différentes.
Les étudiants qui viennent de pays où il n'y a pas une école participante, quelle est la démarche ? Ou alors c'est exclusivement à travers les écoles ?
Non, là, c'était ouvert sans condition d'origine. Par exemple, parmi les étudiants marocains de l'ESAV Marrakech au Maroc, il y a un étudiant algérien. Il y a eu aussi un phénomène où les étudiants belges ont... L'école belge a diffusé son appel à participation en premier, et en fin de compte, ensuite il y a eu l'école de Toulouse, et on a vu qu'il y avait eu un intérêt des étudiants qui n'avaient pas pu postuler à Bruxelles, qui ont aussi postulé à Toulouse. Il y a eu une circulation aussi comme ça de l'information, qui fait que chaque école a ses spécificités, mais il y a eu plus de circulation au nord. Les Libanais, c'est plus exclusivement Libanais, Tunisiens aussi, Maroc, il y a un peu plus d'origines différentes aussi parmi les étudiants. Voilà. C'est aussi une première édition.
Une première édition. Ouais.
Un petit mot avec peut-être Hervé de Haro, une réflexion. Cette COPEAM dont que parfois les auditeurs peuvent ne pas connaître finalement, parce qu'effectivement ce sont des gros outils, des grosses machines comme ça de réflexion, mais c'est pas qu'une machine de réflexion finalement, puisqu'on se rend compte que depuis quelque temps déjà, on va vers la production.
Oui, parce que de toute façon, la COPEAM, l'objectif premier de la COPEAM, c'est de produire. Si on rassemble toutes les télévisions et toutes les radios, l'objectif, c'est pas simplement de discuter ou de faire une session annuelle, c'est évidemment de travailler au profit de ces chaînes pour créer et favoriser la production. Donc la finalité, c'est bien la production. Et donc la production, on l'a parlé tout à l'heure, ça passe aussi par la formation. Les télévisions aussi, notamment l'émergence des télévisions régionales, a créé des besoins. Et donc c'est pour ça aussi qu'on a de plus en plus, que ce soit les chaînes nationales, comme on l'a en Corse avec Viastel, qui deviennent de vraies chaînes régionales, ou des chaînes régionales privées. Il y a une émergence aujourd'hui de produits locaux qui font qu'il faut des produits. Voilà. Et que si on veut éviter une mondialisation et d'avoir, j'ai envie de dire, de la télé-réalité brésilienne, eh bien, on a intérêt à renforcer de la production locale pour avoir une vraie implantation et des gens qui peuvent rester sur place, tout en échangeant. C'est-à-dire que le but, c'est pas de s'enfermer, c'est bien d'échanger, mais en tout cas pour faire des productions locales.
Alors, tout à l'heure, on parlait ici de formation des jeunes au métier de journaliste. Ça peut aller jusqu'où, cette intervention de la COPEAM? On évoquait, lors de cette COPEAM, la création d'un média COPEAM.
Alors, il faut rester raisonnable. Là, ce sont des propositions qui ont été faites hier en commission, mais elles n'ont pas encore été... il va falloir que maintenant, on en parle avec les différents responsables des chaînes. Donc là, pour l'instant, ça ne reste qu'une proposition. Mais je crois que la COPEAM n'est pas là pour remplacer les médias. On est là pour assister les médias, pas pour les remplacer. Donc après, là, la proposition qui était faite hier, c'était plus d'avoir une plateforme qui permette de mettre en avant ce que nous fabriquons. Voilà, le but, c'était plus d'avoir une vitrine. Mais sinon, chacun doit rester à sa place et nous ne sommes pas là pour remplacer les médias, mais pour les assister.
Alors, l'INA ne fabrique pas, mais met à notre disposition des outils indispensables et maintenant de la formation aussi. Ces formations qui sont proposées par l'INA, est-ce que c'est toujours en collaboration avec une autre institution ?
Pas nécessairement. En fait, les actions de formation peuvent être faites directement par l'INA, mais aussi se font en partenariat avec d'autres institutions, d'autres partenaires. Et on a déjà mis en place comme ça des formations avec d'autres organismes de formation, des universités ou d'autres acteurs. Et je voulais préciser qu'en fait, l'INA produit aussi des éléments et des cours contenus assez, qui sont diffusés sur différentes thématiques, soit en tant que coproducteur, soit en tant que producteur dans le cadre notamment de la chaîne France Info, qui est un partenariat entre les acteurs de l'audiovisuel public français.
Eh bien, on ne peut que vous dire merci d'être revenu. Bienvenue à la COPEAM de nouveau.
Écoutez, merci. Donc, on va maintenant voir comment institutionnaliser ou formaliser plutôt ce retour. Ce sont des choses qui vont se décider au niveau du président. Donc, on attend encore un petit peu son retour. Mais juste dire aussi, tout à l'heure, on a parlé formation, on a parlé métier, professionnalisation. Et on a parlé aussi coopération. En fait, toutes ces actions ont juste pour objet de professionnaliser, d'apporter des méthodologies de travail, non pas pour pouvoir en fait dupliquer des produits brésiliens, indiens, turcs, mais en fait permettre à chacun des acteurs autour du bassin méditerranéen d'être en mesure de produire des contenus qui leur ressemblent, mais avec une méthodologie qui soit adaptée au contenu et au mode de diffusion aujourd'hui.
Produire des contenus qui leur ressemblent. Je retiens la formule. Merci beaucoup. Je crois, Jérôme, que nous avons eu là du concret.
Il y a eu de l'espoir.
Il y a de l'espoir.
Et du concret.
Et du concret.
Autour de la Méditerranée, autour de cette table.
Absolument.
C'est le principe de Contara.
La n'est pas terminée, bien que certains considèrent que la Méditerranée est maintenant un peu hors jeu pratiquement, et que les choses sérieuses se passent dans le Pacifique et un peu dans l'Atlantique. Donc nous revendiquons notre présence et merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Cantara qui est à votre disposition lorsque vous voudrez nous communiquer quelque chose ou attirer notre attention sur quelque chose. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Yeah.
la nouvelle directrice par intérim de la commission radio et qui remplacera Hervé Dehalo est la directrice des relations internationales de la RTVE, la radio-télévision espagnole, madame Asunción Gómez. Elle assumera la lourde tâche de présider donc aux destinées de la commission à partir de cet été. Madame Asun Gómez, vous êtes directrice des relations internationales à la RTVE et il se trouve que depuis hier après-midi, vous êtes aussi la présidente de la commission radio COPEAM. Donc c'est vous qui allez veiller aux intérêts de la radio.
Tout à fait, et moi je suis très heureuse et très fière parce que la RTVE a le compromis de défendre tout ce qui concerne la COPEAM et surtout la commission radio. Alors moi je suis très contente et j'espère de ne pas vous...
Décevoir. Certainement pas, madame. Et vous êtes de la télévision, donc vous êtes habituée à travailler et à penser pour ce média. Mais est-ce que vous trouvez que c'est équilibré, télévision, radio, à l'heure actuelle?
Moi, je crois que...
En termes de présence.
De plus en plus, la radio a l'importance qu'elle mérite. Parce que la télé est partout, on a la possibilité de produire des contenus et de faire la distribution. Mais la radio a quelque chose de plus prochain et c'est quelque chose qui est reconnu maintenant. Alors moi je crois que la radio a de plus en plus d'importance.
La radio est plus malléable. On peut faire autre chose et écouter la radio.
Ah oui, bien sûr, c'est ça que tu écoutes pendant que tu fais ta vie. Mais en même temps, c'est un moyen de communication qui se trouve plus proche que la télé et bien sûr que la web.
Que jusqu'à présent, c'était les programmes de radio qu'on essayait d'émettre en format audiovisuel. Depuis quelque temps, il y a le phénomène inverse. Certains grands programmes, je ne nommerai pas parce que ce ne sont pas les nôtres, sont maintenant émis à travers la radio. Vous pensez que c'est quelque chose qui va petit à petit devenir courant?
Tout à fait, parce que c'est ça qu'on vient de parler, que la radio te permet d'être plus libre. Et alors, c'est une très bonne idée qui a mis les programmes de la télé à la radio.
Eh bien, Madame Asun Gómez, merci beaucoup, Madame la Présidente. nous ne vous retenons pas puisque vous avez des compromis, des engagements. Et nous nous retrouverons dans le courant de l'année.
Oui, tout à fait. Je vous remercie à vous. Et moi, je suis à votre disposition.
Merci beaucoup, Madame.
Merci à vous.
Un au revoir et une bienvenue. Un à bientôt peut-être et un surtout en garde le contact. Ainsi se termine cette réunion de la commission radio, un peu comme tous les ans, toutes les réunions commission radio, avec beaucoup de propositions, beaucoup de perspectives, une banque de sons, une radio web peut-être. Peut-être une nouvelle série radio sur les phares de Méditerranée, mais je préfère vous laisser découvrir tout cela au fur et à mesure. En vous invitant à continuer à écouter les radios de Méditerranée, toutes les radios de la Méditerranée, surtout soyez éclectiques, surtout laissez-vous étonner, naviguez entre toutes les webs de nos radios respectives. La surprise est toujours au détour d'un clic, si j'ose dire. Ce Cantara, 27e de la saison, arrive à sa fin. Nous espérons vous avoir donné envie de plus de Méditerranée et de plus de radio. Nous remercions vivement nos collègues techniciens de la radio-télévision publique croate pour leur professionnalisme et amabilité. Par ailleurs, vous dire qu'ici, à Madrid, se trouvait Miguel León. À la semaine prochaine, sans faute, sur les ondes, sur nos podcasts et à travers la page Facebook Cantara. À très bientôt. À la semaine prochaine. Paola ti papare, Paola ti. Paola ti papare, Paola ti. Paola ti papare, Paola ti papare. Paoletti, papoletti, paune, paoletti, paoletti, papoletti, paune, paoletti, paoletti, papoletti, paune. Na čije ćeš gore pasti, paune mor, na čije ćeš gore pasti, paune mor,
jo na li.
Io na pršutio na vino, pa u ne još.